Et bim, comme ça.
Et bim, on reprend, ouais. Il est 8h15 dans les promesses de l'aube.
Exactement, et on accueille notre invité qui s'appelle Raoul d'abord, mais Raoul, les mécaniques. Eh oui.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous et à toutes.
Bon, on doit d'abord montrer ton micro et puis...
Tu es bien sur le micro blanc?
Oui. Ah, ben on va peut-être essayer avec le micro.
Non, vas-y, là, ça devrait être bon.
Bonjour à tous et à toutes.
Voilà, c'est mieux déjà. Voilà, très bien. Bonjour Raoul Les Mécaniques, bienvenue dans les promesses de l'aube ce matin. Alors Raoul Les Mécaniques, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurices?
Oui, bonjour. Je suis un jeune bébé drag king bruxellois depuis un mois. Je suis née au Curiosity le mois dernier, le 13 mars. Le Curiosity, c'est une scène ouverte pour les bébés performeuses qui est animée par la drag queen très célèbre, la Veuve, au Théâtre de la Vie. Et donc, voilà, je suis Raoul Les Mécaniques, jeune drag king bruxellois.
Alors, comment es-tu née il y a un mois?
Alors c'est une grande histoire, mais il y a quelques années, je dirais 5-7 ans, j'avais un groupe d'amis gays et on allait chez maman. Je ne sais pas si vous connaissez le cabaret très célèbre dans le quartier gay. Et j'avais une fascination, enfin à chaque fois qu'on y allait, moi les drag queens, elles m'offraient des spectacles que j'avais jamais vus ailleurs. Mais j'étais quand même consciente qu'en tant que femme cis, donc c'est-à-dire que j'étais assignée fille à la naissance et aujourd'hui je me sens femme dans la vie civile. Raoul était un mec, mais moi dans la vie civile je suis une femme. Et j'étais hétéro aussi à ce moment-là, et donc je me rendais bien compte que j'étais dans un milieu qui était, enfin où j'avais accès grâce à mes amis gays. Mais pour monter sur scène, ben en tant que femme cis, ben c'était des drag queens qu'on voyait sur scène. Eh bien, j'y avais pas forcément accès, donc j'acceptais complètement. Et donc, quand mon groupe d'amis s'est dissous il y a quelques années, eh bien, je suis sortie un peu du monde des cabarets que j'ai repris l'année dernière, parce que l'année dernière, je suis tombée amoureuse d'une fille incroyable. Du coup, fini l'hétérosexualité à vie. Et je suis donc, grande importance de faire communauté dans ce moment-là. Donc, je remets les pieds dans la communauté queer bruxelloise et là, je revois des cabarets. En octobre dernier, avec mon gros chagrin d'amour, évidemment Gwyn, hein, parce que évidemment on rentre dans ce monde incroyable qu'est le Gwynistan, mais avec un petit drama Gwyn, évidemment. Et donc en octobre, je suis 6 pieds sous terre et je vais voir le spectacle des Baraka King, qui est ce jeune collectif qui est né début en septembre, je pense. Et elle jouait à Nas Monique, et là, ça a été la claque. Ça a été la claque parce que c'était un spectacle, donc moi déjà des drag kings, je savais pas que ça existait. Mais surtout, leur engagement politique et leur choix artistique du spectacle m'a bluffée. J'ai ri et j'ai pleuré comme jamais. Et surtout, j'ai perdu ma voix pendant 2 semaines, tellement j'ai crié. Et ce spectacle était incroyable parce qu'en fait, les Baraka King recrutaient. Pendant tout le spectacle, elle n'arrêtait pas de dire « Bon, et toi, tu serais pas le prochain drag king. Et toi, tu serais pas le prochain. » Et moi, ça m'a vraiment appelée. Moi qui rêvais de faire de la scène, qui rêvais de faire du cabaret, eh bien, je me suis dit « Mais en fait, là, je me reconnais. » Et c'est vraiment très important de voir des personnes sur scène, enfin, dans lequel on peut se reconnaître. Et je me suis dit, mais c'est du drag king que je veux faire. C'est incroyable. En plus, le message politique du drag king est un poil plus différent que les drag queens, évidemment, vu que nous, eh bien, le temps d'une soirée, on se costume dans le genre dominant de la société. Donc, évidemment, sur scène, ben, on présente pas forcément les mêmes numéros. On peut très gentiment se moquer de la vérité toxique, alors que les drag queens ne se moquent pas des femmes. Hein. Elles vont prendre tous les codes de la féminité et elles vont les glorifier en être des parfaites représentantes. Mais en tant que drag king, eh bien, on fait pas forcément toujours la même. Enfin, on fait pas du tout la même chose. Et donc voilà, Raoul est né au Curiosity parce qu'en janvier, le chagrin d'amour est quand même assez compliqué à vivre. Et donc je prends toute cette énergie, tout cet amour que j'ai pour cette fille incroyable, mais qui n'est pas partagée. Eh bien, je l'insère dans ce projet artistique. Et Raoul devient insupportable à partir de janvier. Hein. Il m'empêche de dormir la nuit, il veut faire des perfs, il veut des costumes. Enfin, je deviens l'assistante d'une rockstar. Et donc je me dis, bon, je vais commencer à écrire à des scènes. Et il existe quelques scènes où des bébés performeuses peuvent aller tester. Il y a le crash test, le cablab, le Curiosity, et le Curiosity me répond. Et je reçois une date en mars. Évidemment, Raoul n'était pas du tout prêt parce que, enfin, typiquement, quoi, il avait un projet, mais il n'avait pas de costume, sa perf n'était pas travaillée.
Oui, voilà, j'allais demander si Raoul avait déjà un visuel, en fait, mais pas encore.
Il n'avait rien, en janvier, il n'avait rien. Mais il avait ce bagout, vous savez, qu'ont certains mexis hétéros de « ouais, je sais », et alors, en fait, ils sont ni experts de rien du tout, mais ils s'inventent experts. Ben, en fait, Raoul, c'était un peu ça, quoi. Donc, c'était une rockstar, mais il ne savait pas chanter, il ne savait pas danser, il n'avait pas de costume, mais il était persuadé qu'il serait incroyable. Et donc, en fait, en l'espace d'un mois, il a fallu sortir Raoul. Et entre-temps, j'ai eu la chance de revoir une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Clémence Dawine, qui faisait un clip avec le projet Finta de Slameke. Et donc, cette personne recherchait un mec cis-hétéro pour jouer dans son clip. Et moi, je lui ai dit, mais tu veux pas un drag king plutôt? Parce que bon, l'idée dans son clip, c'était quand même un petit peu de montrer toute la masculinité toxique des mexis... Enfin, oui, de certains mecs cis-hétéros. Et donc, on a convenu ensemble que Raoul allait faire 3 personnages. Et donc, ce clip sort le 28 avril. Et vous allez voir les tout débuts de Raoul les Mécaniques, où il fait donc 3 personnages. Un Raoul motard très en cuir. Un Raoul club ouin-ouin, donc avec son petit survêt, parce que tu comprends, le féminisme, c'est un peu dur, quoi. On sait plus comment draguer les meufs. Et alors, un des Raoul que je préfère, le fléministe. Le bobo qui va aux farms et qui, bon, il est féministe parce qu'il est lu Mona Cholet, mais bon, se déconstruire, ça l'emmerde un peu, quoi. Et on a eu des grands fous rires dans le farm parce qu'évidemment, Raoul Fléministe ressemblait comme 2 gouttes d'eau aux clients du farm. Donc voilà.
Donc se fondait dans la masse.
Ah, mais complètement. On a beaucoup ri. On a beaucoup ri. Et donc, c'est comme ça que Raoul est vraiment né. Et je sais pas, 2 semaines après, quelque chose comme ça, bien, ou 3 semaines après, il y avait le Queerosity qui était incroyable. Il y avait bien 40 personnes qui sont venues voir Raoul. J'avais ma maman au premier rang. Enfin, la fille dont je suis amoureuse était là aussi. Enfin, c'était incroyable. C'était une soirée incroyable. Et depuis, en fait, Raoul n'arrête pas d'être appelé. Je suis complètement dépassée, parce que des grands drag queens bruxelloises m'appellent et m'invitent à des scènes. Donc mardi, je joue au festival Fidae à l'ULB. Donc c'est un festival qui est co-organisé par le cercle LGBTQIA+ de l'ULB et qui invite le cabaret Mademoiselle à venir voir un spectacle. Et donc je vais me retrouver sur scène avec des grands noms du style Edna, La Grosse Bertha, Cherry Chapstick, qui sont en fait des grands drag queens queer de Bruxelles. Donc je suis un petit peu pas stressée parce que ça va être incroyable, mais je suis très reconnaissante de ce cadeau. La semaine dernière, j'étais invitée par Blanquette Lagoulue, et enfin voilà, après les projets s'enchaînent, c'est assez incroyable.
Alors donc Raoul construit son costume, et il le construit comment? Enfin, Raoul, si tu peux te décrire, en fait.
Alors, pour moi, tout ce qui commence, c'est déjà, j'ai des playlists dans les oreilles et je suis souvent dans le métro. Et là, il y a une chanson qui débarque et je suis là, oh, oh. Et en fait, c'est l'ambiance directe de la chanson qui va me donner des envies de la performer et qui va me donner une vision du costume de Raoul. Donc, moi, j'ai commencé à avoir des flashs sur Bon Jovi. Alors là, Raoul, on est à fond là-dessus. Hein. Donc c'est le rock des années 80. Et donc ma première perf, c'est sur Loving in Prayer. Mais du bijou, vraiment. Et donc évidemment, j'ai commencé à regarder beaucoup d'images de Bon Jovi. J'adore son costume. Mais bon, ça coûte beaucoup d'argent de créer un costume à la Bon Jovi, parce qu'en fait, il a beaucoup de... Je pense que c'est quelqu'un qui allait peut-être dans les fripes à l'époque, mais il n'empêche que ça prend beaucoup de temps d'aller dans les fripes, de choisir des bons assemblages de costumes. Et donc là, j'ai plutôt une grosse veste en cuir qui est assez incroyable, parce qu'elle a des épaulettes beaucoup trop larges pour moi. Et par contre, à la taille, elle serre très fort. Donc ça me donne une carrure, mais qui est super comique et qui fait très beauf, en fait. Parce que c'est pas une veste qui est faite pour être fermée. Je pense que c'est une veste qui est faite pour rester un peu ouverte et donc d'avoir des grandes épaulettes, une grande carrure. Mais moi, je la ferme et donc je suis un peu coincée dans mon costume. C'est assez comique. J'ai une coiffure aussi. Raoul, c'est pas que le costume, mais j'ai un ami humain, ce qui est incroyable, et qui fait du slam d'ailleurs, et qui vient me coiffer pour à chaque fois que Raoul sort. Et il me fait une sorte de houppette de rocker, comme ça, mais quelque chose de assez, assez grand sur la tête, très très comique. Et puis après, un pantalon en cuir. Et puis le plus important, évidemment, c'est j'ai un jockstrap sur mon pantalon en cuir pour pouvoir donner l'illusion d'avoir un pénis, évidemment.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un maquillage?
Alors, j'en profite en parlant de maquillage, de faire un énorme big up et gros câlin au Baraka King, parce que donc ce jeune collectif qui a créé un collectif de drag king, pas seulement king, hein, donc drag queer, monster, alien, truc, en gros tous les autres drags sauf les queens, eh bien ils font des ateliers maquillage auxquels j'ai assisté en janvier, février, et je me suis retrouvée face à Mama Tituba, qui est un grand drag king bruxellois, qui s'est maquillée devant moi. Et Yael m'a montré étape par étape chaque couche qu'elle mettait sur son visage, et moi j'étais en train de noter toutes les étapes. Et puis j'ai été chercher les 250 euros de maquillage pro qu'il faut, parce qu'en fait un maquillage de drague, il faut que ça tienne, il faut que ça soit visible, donc on peut pas prendre n'importe quoi comme maquillage. Et de toute façon, il fallait que j'investisse, mais donc on en a pour là je crois que je suis plutôt à 300 euros. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Mama Tituba qui s'est maquillée devant moi, parce que je sais pas si vous avez l'occasion de voir ces maquillages qui sont vraiment mais spectaculaires. Et donc j'ai appris comme ça, et puis voilà, Raoul, au fur et à mesure, eh bien, regarde des tutos, perfectionne ici, de là, des petites choses. Mais c'est pas mon grand. Il y a des drags qui ont un gros gros talent pour se maquiller. Moi, c'est pas vraiment mon plus gros skills. Mais j'apprends, on va dire.
Ça fait un mois, hein, tranquille.
Voilà, ça fait un mois, c'est sûr. Mais j'ai genre un maquillage.
Les choses ont encore évolué, j'imagine, de toute façon.
Oui. Et puis j'arrête pas de faire des ateliers maquillage, même dans mon salon, parce que ce qui est incroyable, c'est que des kings, il y en a plein. Il y a plein de personnes qui veulent faire ça. Et donc, la Baraka King est un peu envahie de messages et de demandes. Et donc, du coup, maintenant, on commence entre nous, dans notre salon. Moi, je fais du café, du chocolat chaud, et hop, là, tout le monde se maquille en drague. Et enfin, drag king surtout. Hier encore, j'ai assisté à un atelier maquillage, et donc on s'échange des skills. Moi, je montre les maquillages. Une autre personne m'a aidé à monter ma vidéo promo. Enfin, c'est incroyable. La delphité dans ce monde-là est géniale.
Oui, il y a toi qui t'es révélé à toi-même là il y a quelques mois. Mais il y a tout un groupe aussi, enfin, qui s'est constitué en même temps, et justement avec qui, du coup, vous apprenez ensemble, vous.
Ah bien, en fait, les Baraka King ont fait un appel en décembre. Ils ont fait une réunion à Nasmonique, et on a débarqué. On était plus de 30 à la réunion présentielle, et en fait. Je pense pas qu'ils pensaient qu'on allait trop tôt. Et donc, là, du coup, on a des mailing lists, et on a toutes ces personnes, on a tous ces contacts de personnes qui veulent faire du dralien truc. Et donc, c'est grâce à tout ce réseautage que moi, j'ai pu trouver une personne qui m'a aidé avec le montage. En échange, il y a une personne qui essaie de faire de la couture. Enfin, on essaye de créer maintenant une sorte de plateforme d'échange de skills. Et c'est assez incroyable, en fait, ce qui se passe dans le monde king en ce moment.
Ouais, vas-y.
Non, vas-y.
Bah, c'est c'était ce constat que les drag kings ont moins de visibilité que les drag queens pour le moment.
Alors oui, et c'est la raison d'être des Baraka King. Donc ces personnes se sont rendues compte qu'il y avait pas ou peu de place pour les drag kings queer. Je répète, hein, parce que c'est pas que les kings, alien monster truc. C'est donc la raison pour laquelle eux, elles et elles ont créé leur collectif. Mais après, ces personnes sont dépassées par la demande, parce qu'il y a énormément de gens qui veulent faire du king queer, monster, truc, alien. Et donc, moi, avec un ami, Rocky Fredo Amazon, un bébé drag king strasbourgeois qui vient de déménager à Bruxelles, on s'est rendu compte que, en fait, à la place des drag queens, on a très peu de scènes sur lesquelles on peut s'essayer, en fait. Donc moi, j'ai eu le Queerisité, bon, je viens de le faire, bon, ben voilà, basta. Je l'ai fait une fois, je pourrais peut-être y aller la saison prochaine, mais après, il y a plein de personnes derrière moi, donc je vais peut-être pas prendre la place deux fois des personnes qui ont besoin de cette scène pour sortir de leur cocon. Il y a le Crash Test et le Cab Lab aussi qui existent, parce qu'on a beaucoup de chance, hein, avec la scène bruxelloise, sauf qu'en fait, elles sont bookées jusqu'à la saison prochaine. Donc, je me suis rendu compte avec Rocky qu'on n'avait plus de scène. Et qu'avant de connaître toutes les drag queens qui tiennent les scènes bruxelloises, parce qu'après il y a le playback, il y a Pourvu qu'elle ne soit pas douce, il y a énormément de scènes, mais après il faut connaître les gens, ça met du temps, faut faire du réseautage. Et bien avec Rocky, on s'est dit, En fait, Rocky venait de Strasbourg où il y a tout un collectif de drag king sur place. Je disais à Rocky, mais fais-les venir, mets-les tous dans un train et on fait une soirée, non ? Et donc avec Rocky, ça fait 2 semaines là qu'on se voit pratiquement toutes les semaines, on fait des réunions jusqu'à 4h du matin et on a créé, attention, tenez-vous bien, It's Raining Kings, hallelujah, It's Raining Kings. Voilà, et donc on sort notre toute première édition le 29 avril, il faut absolument pas rater ça. Vous n'aurez sur scène que des drag king, queer, alien, monster, truc, aucune drag queen. Et ça va être incroyable, ça va se faire au Rayon Vert à Jette, ouverture à 20h. Il faut absolument s'inscrire, donc vous pouvez aller sur le site internet du Rayon Vert ou nous suivre sur Instagram, It's Raining Kings, ou suivre Raoul les Mécaniques et Rocky Fredo Amazon. Et alors vous avez toutes les infos pour vous inscrire. Ce sera au chapeau, donc vous pouvez mettre rien du tout comme ce que vous voulez. C'est notre première édition, ça va être incroyable. Et ce n'est que la première, parce que la deuxième édition est déjà en route, et la troisième aussi. Et on vous prépare un de ces trucs. Vraiment, suivez It's Raining Kings, quoi. Ça va être incroyable.
On a bien hâte. On va faire une mini pause musicale. On va écouter Decisive Pink avec Hot to Boy, et puis on se retrouve tout de suite après, toujours avec Raoul.
We go beyond.
On est de retour dans les promesses de l'aube, toujours avec Raoul les mécaniques et encore plein de choses à se dire. Et on commençait par quoi déjà? Je m'en souviens plus.
Par le spectacle, par
oui, exemple. Voilà. Savoir un peu comment tu construisais ta performance.
Bah, du coup, comme je disais, c'est souvent une musique qui passe dans mon casque, qui directement me fait voir un costume. C'est surtout une très grande envie de le jouer. Et ensuite, le costume se trouve au fur et à mesure des fripes. Et donc là, pour les deux premières performances que j'ai fait au Curiosity, que je referai mardi au Festival Fidae le 18 avril, donc j'ai Bon Jovi, Living on Prayer, où donc je suis de tout cuir vêtu et je fais une fausse guitare. Je suis un peu le lover, le rock romantique lover, comme ça. J'adore. Non mais alors ce qui est incroyable, c'est que pas tout le monde, mais beaucoup de gens aiment le rock des années 80, et donc ça crie complètement dans la salle. Et donc moi j'ai vraiment la sensation d'être Bon Jovi, quoi. Pendant je sais pas moi 4 minutes, je suis Bon Jovi et les gens voient Bon Jovi. Enfin je joue pas Bon Jovi, hein. C'est Raoul les mécaniques, mais c'est Raoul les mécaniques qui fait Bon Jovi, quoi.
Je vais te faire une confidence, j'avais des posters de Bon Jovi dans ma chambre quand j'étais ado, voilà.
J'adore.
T'es pas invité pour rien. Hein.
Mais je dois avouer que Bon Jovi, même moi, il y a quelque chose de très jouissif à jouer sur scène, quoi. Et puis c'est ce que je racontais à une copine encore dernièrement, c'est que en tant que meuf cis, c'est incroyable de pouvoir monter sur scène, d'avoir une sexitude, parce que autant vous dire que même moi, quand je me croise dans un miroir, je me ferais bien l'amour à moi-même, tellement que je suis sexy, hein. Mais d'être adulée pour ma sexitude, moi j'ai jamais vécu ça en fait. En tant que meuf cis, si je suis un peu jolie ou un peu sexy, je vais être harcelée, je vais être sifflée, je vais être jalousée. Enfin, c'est pas quelque chose que je mettais en avant, mon physique, mon corps. Mais là, Raoul, mais je veux dire, j'ai un public qui crie, quoi, qui hurle quand je débarque sur scène. Je me dis, mais c'était ça être rocker, ben évidemment, quoi, évidemment. Et alors, ce qui est important pour moi aussi, quand je fais, donc ça c'est ma première perf, et j'avoue que là on est vraiment dans tous les codes du dracking sexy qui fait des clins d'œil à des personnes dans le public. Mais ma seconde perf, je viens toujours amener quelque chose de politique. Et déjà, la chanson Living on Prayer, elle est assez politique. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez des paroles, mais c'est l'histoire d'un couple dont le gars fait grève. Enfin, en tout cas, le boulot du gars fait grève. Et le couple a du mal à manger. Et donc, la fille qui bosse comme une arrachée pour faire tenir le couple dit à son mec qu'il faut tenir, il faut surtout pas lâcher, parce qu'en fait, le gouvernement, il en a rien à foutre qu'on lâche ou qu'on lâche pas. Donc, on est ensemble, tenons bon. Et à un moment donné, dans la chanson, c'est la fille qui flanche. Et c'est lui qui reprend en disant genre, non, il faut qu'on tienne, jusqu'au bout, on est à deux, il faut qu'on y va, quoi. Enfin, on doit y aller, quoi. Et voilà, c'est une chanson qui est très importante pour moi parce que, bon, je vous parlais de cette fille incroyable dont je suis tombée amoureuse et qui m'a fait vaciller, qui m'a fait entrer dans ce monde incroyable qui est le Gwynistan, qui pour l'instant va un peu moins bien. Et donc, du coup, c'est une chanson qui me permet de lui dire tiens bon, quand on est militante féministe. Dans son boulot, dans sa vie, en fait, il y a des moments où on flanche et c'est très très difficile à vivre. Et donc c'est une chanson qui me permet de, un peu en message caché, de lui dire tiens bon, en fait, on va y arriver parce que on a tout ce groupe d'Adelf ensemble et que on va pas te laisser seul. Donc c'est une très belle chanson déjà de base. C'est pas juste Bon Jovi qui fait du rock. C'est pas n'importe quelle chanson de Bon Jovi que j'ai choisie. Et donc ça, c'était c'est ma première perf. Et la deuxième perf que j'ai pour l'instant, alors là, c'était du kiff perso, parce que je savais que ma mère allait venir au Curiosity. Le Curiosity, c'est 150 personnes, plus ou moins. Et le public est assez sont en gradin. Donc on a vraiment l'impression qu'ils sont 300 ou 400, ou peut-être 1000. Et moi, j'ai grandi avec Céline Dion. Et je me suis dit, mais rien à kick, en fait, que Raoul soit un mec. Moi, je veux chanter Céline Dion, quoi. Parce que les codes du drag, en fait, on peut tout faire sauter. Et donc j'ai chanté All by Myself. Génial. All by myself, sauf qu'à la moitié de la perf, en fait, moi je suis très pudique dans la vraie vie, mais Raoul, Il l'est pas du tout. D'ailleurs, Raoul va se dessaper, il va se déshabiller au fur et à mesure de ses perfs. Enfin, j'ai déjà plusieurs autres perfs en travail et j'ai envie d'arracher des pantalons. J'ai envie de. Enfin, on va y aller, quoi. Et dans All by Myself, en fait, je suis torse nu et je n'ai plus de trans-tape. Donc, j'ai vraiment mes seins que je montre au public. Et c'est très symbolique parce que je peux jamais montrer mes seins en fait dans la vraie vie. Je peux même pas aller sur une plage et montrer mes seins. Ce serait problématique. Je peux pas me mettre torse nu dans un parc quand il fait beau, mais sur scène avec le mot queer dans le dos en plus, je me dessape et je raconte à quel point, en fait, depuis que je suis queer, je me sens vraiment pas seule dans la vie. Hein. Autant avant j'avais des moments down très très durs où j'avais l'impression d'être à côté de mes pompes et tout ça. Depuis que je suis rentrée dans ma vie personnelle, dans le monde queer, en fait, j'ai tellement d'adelphes qui sont là, on a tellement de personnes autour de nous, je reçois tellement d'amour que je suis plus all by myself anymore. Voilà. Et alors, ce que je racontais aussi à une autre personne, c'est que donc moi, je débarque, donc je suis une bébé queer. Hein, ça fait qu'un an et demi que je me dis ouvertement lesbienne, Gwyn plutôt. Qui a une connotation plus politique que je préfère à lesbienne. Enfin, même si j'ai pas de mal à dire que je suis lesbienne, mais je suis plutôt Gwyn. Donc je rentre dans le monde Gwyn depuis un an et demi, dans le monde militant aussi, parce que moi je faisais de l'éducation à la santé relationnelle, affective et sexuelle dans mon boulot, mais donc je faisais un sort de militantisme à long et dans les écoles, mais pas activement dans les rues, et donc ça aussi je commence à faire tout doucement. Et donc bébé militante, bébé queer et bébé drag. Et en fait, je me rends compte qu'il y a toute une culture que je connais pas, dont la culture drag. Et c'est là que je voudrais vous parler d'un livre que je trouve absolument incroyable qui s'appelle Drag, l'autre visage des queens et des kings, qui est en fait un roman graphique de Sofiane Assaoui, illustré par Valentin Pasquier, aux éditions La Musardine. Et donc c'est toute l'histoire du drag, de comment ça a commencé, avec à chaque fois des figures de drag français pour illustrer ces parties de l'histoire. C'est assez incroyable, que je vous conseille, il est magnifique ce roman graphique. Et donc là, je me rends compte que dans les prochaines perfs que je veux écrire, eh bien que non seulement j'ai pas tous les codes, mais en plus j'ai un peu des stress de oui, mais est-ce que je suis bien légitime? Est-ce que je vais pas, je sais pas moi, par les idées que j'ai de perf, transmettre des stéréotypes racistes, homophobes, sexistes sans le vouloir en fait, parce que voilà, je me rends compte qu'il y a plein de codes que j'ai pas. Et donc pour l'instant, je travaille avec des expertes en antiracisme. Donc je me suis dit là je peux plus continuer à créer d'autres perfs sans avoir des réponses claires, parce que voilà, la prochaine perf que j'ai envie de faire, le chanteur est noir. Ça a l'air tout bête comme ça, mais moi, mon drag king, déjà, il est blanc. Et surtout, je joue un peu sur le côté misandre. Donc, je me moque un peu des mecs et de leur côté sensible ou du fait de pleurnicher sur une histoire d'amour. Oui, mais si je suis un artiste blanc sur scène et que le chanteur est noir, est-ce qu'on bascule pas, d'une certaine manière, sur autre chose qui est peut-être plus du drag? Et j'ai pas les réponses de ça, parce que y a plein de personnes qui le font sur scène et je trouve pas ça problématique. Mais là, moi, j'ai besoin, en fait, d'être rassurée de est-ce que je peux? Et si je peux, enfin, si c'est possible de le faire, est-ce qu'il y a pas des choses auxquelles je dois faire attention? Par exemple, j'ai demandé à l'experte, mais si par exemple je performe sur des artistes racisés, est-ce qu'une manière de les visibiliser, ce serait sur mon compte Instagram, faire des posts de en fait, tiens, telle personne a vécu de telle manière à telle époque, c'était une personne qui a fait telle chose et telle chose, parce qu'il n'y a rien à faire, je ne veux pas participer à l'invisibilisation des chanteuses noires que je vais performer par exemple. Mais donc c'est des vraies questions de fond que là pour le coup je suis un peu coincée, et autour de moi j'ai quand même principalement des performeuses blancs et blanches. Alors il y a un collectif dont je voudrais vous parler qui est incroyable, qui s'appelle Les Peaux de Minuit, qui est un collectif de personnes racisées drag pour pouvoir visibiliser leur art, parce qu'en fait on parlait des drag kings qui étaient sous-représentés. Je peux vous assurer que les drag racisés sont encore plus sous-représentés que les drag kings, mais je ne les ai pas contactés parce que je refuse de leur demander ce genre de savoir gratuitement. C'est déjà des personnes qui vivent au quotidien du racisme. Je ne vais pas, en plus, en tant que personne blanche, leur dire « Ah ben, j'ai des questionnements de fond personnels pour être assurée que mon art est super. » Donc là, non mais il faut qu'on en parle de ça. Et donc, j'ai fait un appel sur Instagram et j'ai trouvé une personne incroyable qui travaille donc maintenant avec moi pour que je puisse comprendre plus les tenants et les aboutissants de mes idées de perf et de qu'est-ce que ça pourrait peut-être envoyer comme image sur scène. Parce qu'on parle, enfin moi j'ai vraiment ce questionnement-là pour les chanteuses noires ou d'autres origines qui ne sont pas de ma culture. C'est pour ça que Céline Dion et Bon Jovi,
ça va.
Et surtout, j'ai pas pris beaucoup de c'est-à-dire j'en perds mes mots. J'ai pas été sur un terrain trop pentu, quoi. Je veux dire, Céline Dion est blanche, Bon Jovi aussi. Bon, ben, là, ça allait. Mais j'ai fait exprès de ne pas prendre des chanteuses racisées pour mes premières perfs, pour ne pas devoir gérer ce questionnement-là, en plus, quand Raoul devait naître le mois dernier. Et j'ai le même questionnement pour les chansons Disney. Parce que la semaine prochaine, dimanche, nous allons à l'Abeille Blanche avec Rocky Fredo Amazon, mon comparse bébé drag king, et Artemis, une grande amie drag queen aussi, bébé drag queen du coup. Et tous les trois, on va faire un spectacle pour enfants. Et on va raconter l'histoire de Julie qui avait Nombre de garçons, qui est une histoire absolument incroyable, qui est une histoire qui date des années 70 en plus, un livre pour enfants. Et qui raconte un questionnement d'une petite fille qui a une ombre de garçon et qui rentre pas dans tous les codes de la petite fille sage et parfaite et tout ça. Et donc elle se pose beaucoup de questions. Et c'est un livre qui a été très très important pour les personnes en transition dans ces années-là, qui a été perdu pendant des années du monde de l'édition, puis qui est maintenant réédité, qui est un très beau livre. Alors j'ai plus le nom de l'auteur sous la main, mais donc c'est l'histoire de Julie qui avait une ombre de garçon. Et on va raconter cette histoire-là sur scène, et puis on va chanter quelques chansons Disney. Mais de nouveau, en fait, les Disney, on en parle ou pas de Pocahontas, d'Aladin, et de... Enfin, je veux dire, c'est de la réappropriation culturelle, c'est de la fétichisation de culture que les scénaristes ne connaissaient pas, ou Vaiana même. Et donc, moi, j'ai des questionnements, mais j'ai pas les réponses. Peut-être que mes questionnements sont pas fondés. Je pense bien quand même, mais je sais pas à quel moment, aujourd'hui, c'est malin de refaire du Pocahontas sur scène. Alors, je vous rassure, on fait pas Pocahontas ni Aladdin sur scène. Mais voilà, en fait, moi, mon drag king, il aimerait bien faire des covers de Disney sur Instagram. Mais pareil, en fait, je vais pas le faire si ça participe à le fait de banaliser la fétichisation de certaines cultures par les Walt Disney.
Et alors, on parlait aussi, tu dis souvent que t'es bébé drag king. Est-ce que ça se passe un peu comme dans le drag queen où y a une sorte de mère? Alors là, est-ce qu'il y aurait un père?
Alors, il y a des pères. Maintenant, c'était très mignon. Moi, j'avais donc entendu dire qu'il y avait des pères et des mères ou des mappas, parce que j'imagine que pour les drag queer, ça se dit pas papa ou maman. Alors du coup, chez drag king, ça se dit souvent un daddy. Un daddy, c'est vraiment une personne à qui en fait tu demandes d'être daddy. La personne dit oui ou non, évidemment. Et puis cette personne va t'accompagner pendant toute ta naissance de bébé drag. Et donc moi j'avais un drag king bruxellois que j'aime et d'amour. Alors je vais pas le nommer parce que il n'a pas accepté d'être mon daddy, et je comprends très bien pourquoi, parce que être daddy c'est vraiment une implication très particulière. Mais je me suis dit, si je demande à quelqu'un, c'est d'office à lui. Et donc je lui avais écrit une lettre écrite de ma main gauche, comme ça faisait une écriture d'enfant, et j'étais genre: cher non, eh bien je trouve que tu es super et je voulais savoir si tu voulais être mon daddy. Et puis j'avais quand même mis dans la lettre, par contre, c'est totalement ok que c'est pas quelque chose que tu fais et je comprendrais totalement. Et donc il a été hyper mignon, il m'a répondu: écoute, en fait c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise, mais je suis là si t'as besoin. Et en fait il fait tout le taf d'un daddy, c'est-à-dire avoir une personne à qui on peut dire: mais tiens, tu mets quelle peinture sur le corps, mais ça coule, et tu fais comment, et ton string tu l'enlèves comment, et nanana. Enfin bon, bref, il y a des personnes à qui on sait pas trop quoi, vers qui on peut se tourner. Et donc un daddy sert à ça. Puis une personne qui devient un daddy ou qui devient une maman, va souvent sur les premières scènes de son fils ou de sa fille, et va l'accompagner et la soutenir ou le soutenir moralement, en l'appelant souvent. Rocky Fredo Amazon a un papa qui s'appelle Yax, qui l'appelle toutes les semaines, avec qui il travaille ses performances. Yax l'aide à avoir lui donne des retours. Donc c'est comme une grande famille. Et il y a que sa 12 fils d'ailleurs. Donc c'est tout un monde. C'est pas d'office. Moi, c'est vrai que Raoul avait pas vraiment besoin d'un papa. C'est ce que j'avais dit à la personne à qui j'ai demandé. J'en avais pas vraiment besoin. C'est juste que je trouvais l'idée mignonne. Je sais qu'un jour Raoul deviendra papa. Ça, c'est sûr, parce que je trouve que c'est quelque chose de très touchant. Et dans le livre, on explique aussi que en fait, ça vient. Si je me trompe pas, après j'espère de pas dire de bêtises, aussi du fait que les personnes qui faisaient du drag à l'époque étaient rejetées par leur propre famille et donc n'avaient souvent plus de ni père de mère et donc avoir une maman ou un papa drag en étant drag, eh bien c'est se retrouver une famille, c'est très important pour certaines personnes. Et alors Raoul va pas devenir papa tout de suite, hein. Les bébés drag king, là je vous entends, hein, je vous sens déjà arriver. Non, laissez-moi au moins un an parce que je sois déjà un peu plus ancrée. Mais après, c'est sûr que si j'ai du feeling avec une personne, j'en aurai pas 12 des filles, ça c'est clair. Mais je trouve l'idée très belle, surtout que j'ai plein de choses à offrir vu que je sors d'une formation de 3 mois en théâtre intensif en plus là. Et donc j'ai vraiment des skills en performance à pouvoir apprendre. Le maquillage un peu moins, mais bon, je peux montrer le maquillage de Raoul, hein. J'ai fait un atelier maquillage hier. Et oui, je trouve que c'est une très belle façon de faire. Et surtout, c'est mignon, la veuve la dernière fois, alors c'était au mois de février je pense, elle avait sa petite fille sur scène. Donc la veuve a des filles et ses filles commencent à avoir des filles. Et donc la veuve était toute toute touchée d'avoir sa petite fille sur scène. Alors c'est des personnes qui doivent avoir le même âge, hein, je veux dire, il y a pas de, mais c'est très mignon. Et du coup il y a dans le public, il y a un petit côté de, oh, enfin je sais pas moi, il y a un petit côté très touchant dans ce fait de faire famille. Après c'est pas obligatoire comme je disais.
Alors on arrive quasi en fin d'émission, mais tu as plein de dates à annoncer.
Oui, alors je rappelle les dates donc que j'ai dit. Raoul Les Mécaniques va jouer le 18 avril au festival Fidei à 21h. Ça se passe à l'ULB, donc c'est le cabaret Mademoiselle qui est invité par le cercle LGBTQA+ de l'ULB. Ensuite, on va jouer avec Rocky Fredo Amazon et Artemis le 23 avril à l'Abeille Blanche à 14h30. On fait un spectacle pour enfants d'une quarantaine de minutes et puis on anime un atelier philo avec les enfants sans les parents. Et ensuite, le 29 avril, It's Raining Kings. Hallelujah, It's Raining Kings. Ça, ce sera donc au Rayon Vert à Jette. Venez nous soutenir, on a vraiment besoin. Ce sera notre toute première édition des It's Raining Kings. Ça va être incroyable. Et donc, ce sera animé par Rocky Fredo Amazon et moi-même, Raoul Les Mécaniques.
Très bien. Et alors, où est-ce qu'on retrouve tout ça?
Alors, Instagram, parce qu'évidemment, le monde des kings et des queens et des queer alien monster truc, nous sommes tous sur Instagram. Donc, l'Instagram de Raoul, c'est raoul.lesmécaniques, Rocky Amazon pour mon comparse Rocky, et alors It's Raining Kings pour notre duo qui s'appelle le duo des Bad Boys.
Oui, je suis en train d'ouvrir la page du Rayon Vert et donc de voir les photos. Oui.
Attention, on est très très sexy. Hein.
Je vois ça. Effectivement. Alors, donc, c'est à prix libre au chapeau et il faut prévoir du cash.
Et voilà. Il faut surtout
et inscription
réserver.
Inscription obligatoire.
Ouais, oui, voilà, donc tout ça. Le lien, c'est un Google Form et c'est important parce qu'il faut qu'on ait une idée de combien de personnes viennent.
D'accord. Le show commence à 20h, ouverture des portes à 19h.
Et on en a pour 2 heures de show avec une pause au milieu.
Très bien, c'est bien les pauses en général.
Ah là c'est nécessaire. Et donc c'est assez chouette parce qu'on va avoir tout le collectif de Strasbourg et de Lille, et il y a aussi des performeuses de Lille qui débarquent. Et donc ce sont tous des performeuses que vous ne voyez jamais à Bruxelles. Donc si vous allez souvent voir du drag king, eh bien voilà, c'est des performeuses que vous ne connaissez pas.
Très bien. Ben, merci beaucoup Raoul Les Mécaniques d'être venu jusqu'ici et puis de nous avoir raconté tout ça.
Ben merci à vous, c'était tôt ce matin, mais en fait je suis trop contente d'être là. Et c'est toujours un plaisir de te revoir.
C'est cool. Alors il est 8h56 et la radio elle continue.
La radio elle continue. Oui, elle continue avec de la musique jusqu'à 11h. À 11h ce sera Shadex Deck avec Understudy en guest. Il y aura l'heure de pointe à midi. Il y aura Panicorama à 16h, il y aura Silence Radio à 17h, à 18h, Jardin Public, à 19h, soutien aux Fintas à nos frontières, donc femmes, lesbiennes, intersexes, non-binaires, agenrées qui tentent de passer aux frontières de l'Europe, une émission en direct de Nasmodic, justement, j'ai l'impression. Onde de choc ce soir à 20h, Live Stage à 21h30. Soundtrack de minuit à 22h30 et fait tout piégeur à minuit. Demain matin, ce sera les promesses de l'aube à 7h et puis la journée qui roulera, quoi, tranquille,
bah
comme
ouais,
d'habitude. Hein, voilà.
C'est ça, tout à fait. Et ben voilà, on se quitte tranquillement alors avec de la musique sur Radio Panique.
C'est parti.
Bonne journée.
Bonne journée.